général de Suisse, Monsieur le Consul aux affaires culturelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Au nom de Mme Lise Bissonnette, présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans l'auditorium de la Grande Bibliothèque, pour cette conférence sur Blaise Sandor. Je suis Ghislain Roussel, secrétaire général et directeur des affaires juridiques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'en en dirai pas plus pour M. Bonnard. Donc, je suis secrétaire général, donc responsable de la direction de la programmation, qui est la direction qui est responsable au niveau des expositions et des cycles de conférences à BANQ. Dans le cadre de ces grandes conférences, Bibliothèque et Archives nationales est heureuse d'accueillir la tenue de la conférence d'aujourd'hui intitulée Sandras Mentor et Sandras Véridique. Cette conférence a été rendue possible grâce aux efforts conjoints de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et du Consulat général de Suisse dans le cadre de la Semaine de la francophonie qui vient tout juste de se dérouler. Et ça peut peut-être vous sembler curieux, ce partenariat. Bibliothèque et Archives nationales est à l'aune de développer une politique de relations internationales et intensifier ces relations internationales n'est pas strictement celle que vous lisez dans les journaux avec le réseau des bibliothèques nationales francophones ou les bibliothèques nationales de Suisse, mais ça s'étend aussi à la bibliothèque nationale du Mexique et nous collaborons avec beaucoup d'institutions nationales qui ont des projets de construction de grandes bibliothèques dont Turin où est présentement Mme Bissonnette. Dans cette même perspective-là, la politique dont on veut se doter au niveau des relations internationales vise à des rapprochements très, très riches en contenu avec plusieurs consulats généraux ou au commissariat qui peuvent être localisés à Montréal, dont c'était le cas jusqu'à maintenant avec l'Italie et l'Espagne. Nous nous réjouissons de ce partenariat à développer et à enrichir avec la Confédération helvétique. Bienvenue. J'aimerais présenter notre conférencier, M. Bruckner. Il est professeur et a enseigné la littérature américaine pendant plus de 30 ans au département d'études anglaises de l'Université de Montréal. Il a publié une biographie sur Blaise Sandor et il travaille présentement à l'édition de la correspondance entre Sandor et son agent américain. Et on a fait des efforts pour essayer de chercher dans nos collections des titres de Blaise Sandor que vous devez voir, je crois, à l'entrée de l'auditorium. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Bruckner. Et bonne conférence.
Merci. On va passer derrière le rideau. Bonjour, merci d'être venu. Moi aussi, je remercie. Je suis branché. Je remercie le consulat suisse et la Grande Bibliothèque de m'avoir invité, de m'avoir permis de faire cette présentation. Alors, je vais vous le présenter sous deux grands aspects ou deux grandes lignes. La première, c'est le titre que je vous ai donné là, Sandor Mentor et Sandor Véridique, qui a surtout affaire à la biographie de Sandor. On l'a souvent pris pour un grand menteur, un inventeur de ses aventures, un aventurier peut-être simplement de livres. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, depuis 20 ou 30 ans, on découvre énormément de vérité dans ces mensonges et qu'en fait, la vérité gruge constamment sur cette légende, sur cette vie légendaire. Mais cette vie est une des deux lignes. La deuxième ligne, j'ai un autre titre, qui est « La modernité à l'assaut du livre ». Et il s'agit de voir comment Sandor a pu faire entrer énormément d'innovation et énormément d'originalité dans la manière dont il écrivait, dans son écriture, mais aussi dans la manière qu'il pensait, lui, avec ses amis, des amis très célèbres que vous allez voir, dont vous allez voir des amis les peintres. Alors, j'essaie de mener ces deux lignes de front en même temps. Et évidemment, ce ne sont pas des vases closes, hein, ça communique, mais c'est la modernité. C'est Blaise qui téléphone, qui dit « Qu'est-ce qui t'a donné l'impression que tu pouvais faire une conférence ?» Alors, je commence avec un petit mensonge. Si tout marche bien, voilà. C'est sa carte d'identité, elle est fausse. Il ne s'appelait pas à la naissance Blaise Sandor, il s'appelait Sauser. Frédéric Sauser, il est né à La Chaux-de-Fonds. Vous ne voyez nulle part sur cette feuille La Chaux-de-Fonds. le 37 avenue Kléber à Paris. C'est l'adresse d'Abel Gance, un grand cinéaste de l'époque. Ce n'est pas chez lui. Le 1er septembre 1887, c'est effectivement sa date de naissance. Ça, c'est exact. Alors, né Paris, rue Saint-Jacques. Vous comprendrez plus tard, si vous ne le savez pas encore, pourquoi cette écriture a cette allure assez peu écrivain. Rue Saint-Jacques, ce qui n'est pas marqué là, il disait à l'hôtel des étrangers où fut écrit le roman de la Rose. Et ça reviendra. Il est donc né à La Chaux-de-Fonds, petit village suisse. Il était suisse. Et voilà une photo de ce village, assez curieux pour une ville, pas un village, disons une ville, une petite ville, assez curieuse pour une ville européenne dans son alignement à l'américaine, avec toutes les rues à angle droit. C'est à cause de nombreuses reconstructions après des feux. Il paraît que c'est en fait une ville plus agréable que son a l'air. J'aime bien cette photo parce que c'est une ville qu'on quitterait assez volontiers. Beaucoup de Suisses ont quitté, Sandard a quitté, pas tout seul, pas de lui-même. Né à peu près trois semaines dans la même ville, un autre, un monsieur Jeanneret, a quitté, c'est Le Corbusier. Donc il a non seulement quitté, mais il a changé son nom aussi. Ils veulent vraiment effacer le passé, là. Monsieur Chevrolet a quitté 20 ans après. Et puis, je vous avoue que pendant que je fais cette conférence ailleurs au Canada, je ne fais que rencontrer des gens qui arrivent de La Chaux-de-Fonds. Donc, tout le monde quitte la Chaux-de-Fonds. Alors, Sandrard n'a pas quitté La Chaux-de-Fonds de ses propres moyens, puisque son père, qui était d'origine professeur de mathématiques, n'a pas l'air d'avoir beaucoup enseigné les mathématiques, voulait surtout investir dans des inventions, dans des produits, et il n'a fait que faire des faillites. Il a bouffé son argent à lui, et ensuite l'argent de sa femme, qui s'appelait Dorner, et dont la famille était d'origine, du Jura. Et un des premiers grands déplacements, donc quand son père avait peut-être 7 ou 8 ans seulement, c'était à Naples, où le père a voulu faire une tentative d'importer la bière de Munich dans le bassin méditerranéen, mais sans pasteurisation, si j'ai bien compris. Donc, un autre projet, c'était justement d'exploiter cette photo, ou une photo qui lui ressemblait beaucoup. Ça, c'est une photo de 1921. Au fait, tous les documents que je vous montre sont des documents d'époque. Je n'ai pas été reprendre ces photos. C'est une vieille photo de 1920 ou 21, et Sandrard raconte dans une de ses histoires que son père voulait faire la commercialisation de cette photo, justement, à 100 000 exemplaires ou 120 000 exemplaires. Et encore un projet qui n'a pas marché. Alors, ils ont fait un certain nombre de voyages, peut-être en Égypte, probablement en Angleterre, sûrement à Paris, puis 3 ans à l'école à Naples. Et ils sont rentrés en Suisse. Le petit Freddy était déjà un enfant assez difficile, j'ai l'impression. On l'a mis à l'école commerciale plutôt qu'au gymnase, l'école commerciale de Neuchâtel, où il a réussi à accumuler 350 heures d'absence non motivée, ce qui me semble quand même énorme, mais c'est peut-être un mensonge, peut-être que c'était moins. Et à la fin, vers 1904, son père a réussi à le placer à Saint-Pétersbourg. Alors donc, encore un dernier grand voyage, pas dû à lui-même, dû à ses parents, chez un bijoutier ou un horloger suisse à Saint-Pétersbourg. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de voyages autour de Saint-Pétersbourg qui sont plutôt documentés par Sandrard lui-même, dont celui-ci, qu'il a dû sûrement faire plusieurs fois, c'est à la foire de Nijni Novgorod, qui était à l'époque une foire célèbre, une foire qui existait sur ces lieux depuis le 14e siècle et où des gens arrivaient une fois par année de partout, d'Afghanistan, enfin vraiment des caravanes, des peuplades, des gens qui venaient vendre, mais des représentants de peuplades de Mongolie, d'Afghanistan, de partout. Et cette photo vous donne une petite impression, c'est une photo d'époque, mais en fait ça se passait sur des kilomètres. Et la première grande question sur la vie de Sandra Hart, c'est est-ce qu'il a jamais pris le train qui se construisait en 1904-1905, le Transsibérien. On en parlera. Puis si vous avez des questions à poser plus tard, vous aurez peut-être l'occasion de poser des questions là-dessus. Je vous montre rien que ce petit document, déjà pour vous donner un petit aperçu sur ce que vous allez voir plus tard. Ça, c'est un morceau du billet de train du Transsibérien. Alors, vous voyez, c'est en tranches. Et c'est comme ça que les gens voyageaient, n'est-ce pas? Alors, le premier, c'est de... j'arrive pas à le lire, là. De Targa à Krasnoyarsk. Le deuxième, Krasnoyarsk-Baïkal. Baïkal, c'est le lac Baïkal, qui était le grand obstacle pour ce train. Il devait le contourner avant de poursuivre pour aller jusqu'au Pacifique, jusqu'à Port Arthur, parce que les Russes voulaient quand même établir leur emprise, mais enfin, disons, leur existence, leur position politique jusqu'à la Chine, jusqu'au Pacifique. Et alors, chaque fois, on arrachait un bout du ticket, du billet, n'est-ce pas, pour chaque segment du voyage. Le Transsibérien, le billet du Transsibérien fait 27 segments. Il y en a 27. Vers 1909, Sandra est rentrée en Suisse, essayait de faire des études à Bâle, peut-être quelques études de médecine, pas très réussies, des études de philosophie en médecine, et rencontre une jeune femme qui s'appelle Fela Poznanska, qui est une jeune Polonaise, et ça va être le grand amour. Voilà une photo de Sandra à l'époque de Bâle, et je vais vous montrer un certain nombre de photos qui sont les photos qui viennent de la couverture, des couvertures des œuvres complètes. Donc ça, c'est le premier volume. ils ont des passages, ils ont des voyages à Bruxelles, des voyages à Paris. J'ai un petit texte de Fela, qui vient des inédits de sa femme plus tard. « Je te vois à Bruxelles le soir, tu étudies dans le gros dictionnaire Hatzfeld et Darmstadter. Tu dis, 10 ans d'études, il me faut 10 ans. Je trouverai ma langue, mon style, une fois que j'aurai commencé. Mais je ne sais rien, je ne sais pas mon français. » J'étais dans mon lit, dans le lit, toi à la table. J'étais heureuse, je regardais ton front, ta main. J'étais souffrante, tu vendais des livres de la planche pour m'acheter des oranges. Tu étais beau, j'étais belle. C'est le début. Alors, par la suite, Sandra rentre à Saint-Pétersbourg pendant 3 ou 4 mois. On ne sait pas trop à quelle fin, parce qu'en fait, il est très misérable. Et Fela s'en va à New York, et ensuite lui envoie à Saint-Pétersbourg un billet pour New York. Et Sandra va prendre le bateau pour New York à Libau. Il va prendre un bateau semblable à celui-là. Lui, le sien, ça s'appelle le Burma, mais il accompagne des immigrants. Donc, ça ressemble, ça c'est un bateau qui s'appelait le Patricia, mais c'est effectivement tous les immigrants sur le pont, parce qu'on ne passait pas beaucoup de temps en dessous, c'était très désagréable. Et il arrive, il embarque le 21 novembre, et il arrive le 12 décembre. Alors, imaginez-vous le voyage qu'on faisait à cette époque. On est en 1911, et même il y a un petit côté canadien, le bateau a été tellement endommagé qu'il a dû faire une escale pendant une bonne semaine à Saint-Jean, en Terre-Neuve. Et voilà ce que Sandra en dit, pas dans un texte publié, mais dans ses inédits, ce qu'on a trouvé par la suite. « J'ai partagé tous les sorts du marin, beau temps des premiers jours, enchantement, vagues, vent, tempête, ouragan, dépontement, avarie, dérive, refuge dans un port de fortune. Je n'attendais pas ces choses au XXe siècle. J'en ai eu de la chance. » C'est-à-dire, en quelque sorte, d'avoir pu faire un voyage au XVIIIe siècle, pratiquement. Alors, il arrive en décembre, et voilà, évidemment, ce qu'il trouve. Je veux que vous soyez un peu choqués par cette photo, je sais que vous ne le serez pas. C'est parce qu'il faut se rendre compte qu'en 1911, aucune ville au monde ne ressemblait à ça. Ça, c'était un choc extraordinaire, d'avoir ce qu'on appelait déjà des gratte-ciels, et pour cause, n'est-ce pas? Et pas des plus hauts, hein? Là, vous en avez pour quarantaine d'étages, c'est pas grand-chose. Mais cet effet de canyon, avec les bâtiments qui montaient, qui cachaient le ciel, ça faisait un effet extraordinaire et qui portera sur la poésie de Sandra. Et puis, dans un autre quartier, ça, n'est-ce pas? Et le contraste des deux. Et ça, c'est le quartier italien du Mulberry Street, ou par là-bas. Moi, je sais que c'est italien parce que je vois des fruits dans la rue. On reconnaissait les quartiers simplement par ce qui se vendait dans les rues. J'ai la maison où il habitait. Ça, c'est une photo un peu plus tardive, vers 1936. Cette maison n'existe plus. Elle était sur la 96e rue, dans le West Side. Et curieusement, l'enseigne, ce qui est marqué sur l'enseigne que vous ne pouvez pas lire, c'est « Rembourreur parisien ». Mais il avait une chambre dans cet immeuble. Et le jour de Pâques, ou soirée de Pâques, il se présente dans cette église, qui est une église presbytérienne, sur la 14e rue. Non, sur 5e avenue, à la 13e rue. Et selon lui, il se fait mettre à la porte, parce qu'il n'a pas d'argent à mettre dans l'assiette qui circule. Il écoute l'oratorio d'Haydn, de la création. Et ça, on a pu le contrôler par la suite, que c'était effectivement, c'était joué à cette église-là. Et il s'en va vagabonder, en quelque sorte, dans les quartiers, dans le Lower East Side, dans tous les quartiers en dessous de la 13e rue de la ville de New York. Et le poème, c'est effectivement un homme qui est accompagné par une sorte de Christ en ombre. Il dit « Je descends à grands pas vers le bas de la ville, le dos voûté, le cœur ridé, l'esprit fébrile. » Et vous avez un poème, son premier grand poème, qui s'appelle « Les Pâques à New York », qui est rimé, deux vers par deux vers, pas toujours rimé, souvent c'est assez mou, ou des assonances, dans un langage qui n'est quand même pas le langage symboliste ou le langage néo-symboliste, mais une langue un peu héritée de François Villon, qui tente de retrouver la simplicité de la poésie du Moyen-Âge. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent pêle-mêle sur les pontons. Il parle des gens dont je vous ai montré la photo. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens. On leur jette un morceau de viande noire comme à des chiens. Ça, c'est une illustration d'un volume sur les Pâques à New York, où le titre est répété sur chaque page, où il y a 6 ou 7 reproductions des bois d'un artiste qui était très connu, très prisé en Europe dans les années 20. C'est un volume qui date de 1926, donc de 14 ans après la publication du poème à Paris. Lui s'appelait Franz Mesril. C'est un exemple des poèmes illustrés. Et les illustrations sont directement prises dans le poème. C'est le Christ, voyez-vous, avec les gens pauvres ou les gardes-corps avec les fusils à droite et les gratte-ciels. Je vous montre un deuxième qui est assez violent. Votre flanc grand ouvert est comme un grand soleil et vos mains tout autour palpitent d'étincelles. Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang et les femmes derrière sont comme des fleurs de sang. D'étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées, calices renversés ouverts sur vos 3 plaies. Votre sang recueilli, elles ne l'ont jamais bu, elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul. Des rimes un petit peu inhabituelles pour le moment. Ça, c'est une photo de vers 1890 de Ris. Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des va-nu-pieds, des receleurs. Je pense aux 2 larrons qui étaient avec vous à la potence. Je sais que vous daignez sourire à leur malchance. Seigneur, l'un voudrait une corde avec un nœud au bout, mais ça, ce n'est pas gratis, la corde. Ça coûte 20 sous. Il raisonnait comme un philosophe, ce vieux bandit. Je lui ai donné de l'opium pour qu'il aille plus vite au paradis. Et plus loin dans le poème, il s'agit aussi d'un restaurant chinois. Et il imagine le Golgotha, il imagine le Christ torturé à la chinoise, assez cruellement. Et enfin, sur ce poème, j'ai encore un petit bout à lire. Vous avez une banque qui existe encore, sauf que ce n'est plus une banque, je crois que c'est The Gap. Et le train en surface a été enlevé, mais il est dans le poème. Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne, ma chambre est nue comme un tombeau. C'est donc dans la petite maison que je vous ai montré. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre, mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents, je suis trop seul, j'ai froid, je vous appelle. Et je saute un petit peu et je vous donne le dernier vers. Je ne pense plus à vous, je ne pense plus à vous. Ce qui est évidemment une contradiction notoire. Alors, Sandra va maintenant rentrer en Europe au mois de juin. Ça, c'est le bateau qu'il prend, mais pas à ce voyage-ci. Il prend le vol Tourneau, qui est devenu célèbre juste après, parce qu'il s'est noyé. Il a brûlé en mer un voyage après. C'était une époque très dangereuse, rendez-vous compte. Son bateau qu'il a pris a dû des problèmes. En avril 12, c'est le Titanic. Lui, il prend ce bateau en juin 12, et deux, trois mois après, ils font en mer. En tout cas, il rentre, il est à Paris, il arrive à Paris vers juillet, août, et là commence, on pourrait presque dire, le vrai corps de ce que j'ai à vous raconter. C'est le moment de l'avant-garde, de 1912 à 1914, à Paris, qui est vraiment tout à fait extraordinaire, et qui, de mon avis, de l'avis d'autres personnes aussi, produit pratiquement tout ce qui se passe pendant 20 ans à venir, à Paris et en Europe. Mais évidemment, en 14, c'est la guerre, et donc tout est interrompu, et la moitié des gens, Apollinaire par exemple, reviendra, mais il est très tôt mort après. Alors, la première personne que Sandra a bien connue chez les artistes, c'est peut-être un tableau que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ce tableau, vous ne saurez pas qui est l'artiste, assez curieusement, parce que c'est bizarre pour lui. C'est Chagall. C'est un tableau de Chagall, et vous voyez en bas, là, Sandra. Il manque un air. Sandra, Canudo, Apollinaire et Walden. Et ce tableau, maintenant qu'on vous le trouvez dans un livre, s'appelle Hommage à Apollinaire, mais en fait, son vrai titre était Hommage à Apollinaire et puis tout le monde, enfin les quatre, si tu veux. Si vous voulez, c'était ses amis. En fait, c'est le seul poète qui venait à un endroit où vivait Chagall, qui s'appelait La Ruche. Là, je vous montre un poème qui vient des 19 poèmes élastiques. Je vous donnerai un poème élastique plus tard. Je vous donnerai droit à un poème. Si vous restez, vous aurez le droit à un poème élastique. Qui est le portrait de Chagall en train de peindre. Et là, vous voyez une révolution dans le langage poétique, mais alors vraiment une coupure extraordinaire. Ce n'est même pas de la prose, c'est du télégramme. Et c'est poétique par l'image, par la manière dont il le prend, mais ce n'est absolument plus poétique par langage sublime ou transcendant, etc. Il dort, il est éveillé. À la fin, il redort. Tout à coup, il peint. Il prend une église et peint avec une église. Il prend une vache et peint avec une vache, avec une sardine. Ça, c'est probablement le tableau dont il s'agit. N'est-ce pas ? Et vous allez voir un jeu entre peinture et poésie qui est étroite et très excitante. Je pourrais revenir sur ce poème, mais en fait, je pense que je vais commencer à courir un petit peu pour ne pas trop rallonger la conférence. Mais il y a d'autres éléments dans ce poème qui sont dans le tableau, et le tableau qui s'appelle « À la Russie, aux ânes et aux autres » est un titre de Sandra. Et presque tous les premiers tableaux de Chagall ont des titres donnés par Sandra, probablement parce que Chagall parlait assez mal le français à l'époque. Ça faisait à peine deux ans qu'il était à Paris. Et ça, c'est une deuxième partie du même poème. Ça se passe à La Ruche. Je ne vais pas vous expliquer tout ça à La Ruche, mais c'était un endroit que vous pouvez visiter encore. Il est devenu une sorte de musée. Toute l'école de Paris est passée à La Ruche. C'était au moment où Sandra connaissait Chagall à La Ruche. Modigliani y passait. Léger a eu un passage. Zadkine, tous les gens qui sont arrivés de Pologne, de Russie. La Ruche, escalier, et sa porte s'ouvre comme un journal. Il s'agit souvent de journal. On est à l'époque des collages de Braque et de Picasso, et en fait, Sandra, c'est souvent du collage aussi. Couvert de cartes de visite, puis elle se referme. Alors, je ne veux pas vous lire tout ça, je ne veux pas prendre le temps de le faire. Vous avez un autre tableau de Chagall qui s'appelle Le Poète. Il n'y a pas de preuve qu'il s'agit de Sandra, mais il y avait pas de, quand vous lisez la biographie de Chagall, il n'y a personne d'autre que ça peut être. Surtout en train de s'enivrer à sa table. Et je reviens, oh pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je reviens, si vous descendez en dessous de la ligne, en dessous de Petrus Borel, La Folie l'hiver, Un génie fendu comme une pêche, l'autre est à mon Chagall, pauvre gosse auprès de ma femme, délactation morose, les souliers sont éculés. Je saute un petit peu. Et mon ivresse, quand je lui rends visite, des bouteilles vides, des bouteilles. Pas toujours à 20, si vous regardez plus haut, vous avez bouteilles vides, nous garantissons la pureté absolue de notre sauce tomate. Il n'y a pas seulement du vin, mais voilà le poète avec la bouteille. Et un autre petit détail, à la main, le poème, enfin le petit cahier où il est en train d'écrire quelque chose, curieusement, il y a de la peinture. Puis si vous allez garder ça en souvenir 60 secondes, vous allez voir un peu de peinture et d'écriture ensemble. Ça, c'est un tableau de Chagall, et c'est un tableau de la femme et du premier garçon de Sandrard. Et donc, vous l'aviez déjà dans le poème. Souvenez-vous, là, le gosse, ma femme avec mon gosse, etc. Alors, ils sont en train de jouer à un niveau très familier, sans grande formalité. Alors, je laisse pour le moment Chagall. Bien sûr, si vous voulez poser des questions plus tard, je serais enchanté de vous répondre. Ou peut-être que vous savez plus que moi. Certains savent plus que moi. Et je passe maintenant à Sonia Doloné, qui est l'autre grande artiste amie de Sandrard à cette époque. Et là, vous avez ce qui, pour moi, est une œuvre absolument révolutionnaire pour le moment. Vous avez un papier collé avec le langage en papier collé, découpé, collé. Un petit poème que Sandrard et Sonia ont mis ensemble pour essayer de vendre aux montres Zénith de la Chaux-de-Fonds pour une publicité. Mais ça a une avance sur la publicité extraordinaire. Il suffit de voir les publicités des montres Zénith du moment. Même quand ils voulaient mettre des poésies, c'était des petits trucs, Comte de la Fontaine ou des trucs comme ça, très ordinaires. Je vous le lis, si vous avez du mal. Record, midi, bas, sur son enclume, lumière, Zénith. Hein, alors, concis, simple, direct, image, choc. On n'a pas fait des publicités comme ça avant les années 60, pratiquement. Alors, nous arrivons à un autre grand poème, et vous voyez pourquoi je vous ai parlé de texte d'un côté et puis de couleur de l'autre. Ça, c'est le poème qui s'appelle, dont vous voyez le titre, « La prosodie transsibérienne de la petite Jeanne de France ». C'est un poème, ou c'est un tableau, ou c'est un tableau-poème. Est-ce que c'était même un livre, n'est-ce pas? Pour passer à l'assaut du livre, on ne fait pas mieux. Je vais vous jouer un peu de musique et pour lire ce poème et je vous montrer en plus en détail au fur et à mesure. Alors, ça, c'est le début du poème, le haut. Voilà le début, mais seulement le texte. Je pense que vous aurez pas mal de difficultés à le lire, mais vous êtes peut-être capable de suivre par petits bouts. Si vous voulez bien, Benoît, la musique, et je vous laisse écouter.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares, et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours. Car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place. Et ma main s'envolait aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout, j'avais faim, et tous les jours, et toutes les femmes, dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe, et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier.
Ça, c'est un micro-sillon qui date de 1952, qui a été fait par un ami de Sandard, mais qui vivait à New York et qui a eu l'idée d'accompagner le poème et de lire tout le poème accompagné de vieux jazz des années 20. Alors, voici ce poème, ou cet objet. Je vais l'approcher. On voulait que ça arrive, ça. Mais on voulait que je tombe avec. Voilà. Voilà. Alors, entièrement abstrait, sur un côté. Là, je vous ferai remarquer que la peinture abstraite n'existe pas encore. Hein. Juste, Kandinsky est en train de faire ses premiers essais, sauf pour... Il faut descendre. Sauf pour la tour Eiffel, juste en bas. Alors, est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un tableau? Évidemment, est en train de jouer sur tous les registres. Et, n'est-ce pas, on ne le tourne pas, il n'est pas de droite à gauche. Normalement, et en fait, ils étaient faits à la main aussi. Il fallait les faire à la main parce que le côté tableau est ce qu'on appelle une pochoire. Donc, chaque numéro est fait à la main. Il devait avoir 150 exemplaires, disait-il, parce que si on les mettait bout à bout, ça faisait la hauteur de la tour Eiffel. Et il y en a eu à peu près 75, à ce qu'on sache, qui sont très dispersés dans le monde, parce que personne n'en voulait, personne ne voulait en acheter un. Mais tant pis pour eux, hein, parce que si vous en avez un, je vous le rachèterai volontiers. Alors, je vais passer à un autre morceau de jazz aussi, mais très différent pour... Vous voyez un peu comment on peut travailler avec ça, ou même ajouter une autre dimension, tableau, poème, musique. C'est une autre page avec un refrain qui revient dans le poème, Blaise dit, sommes-nous loin de Montmartre, et celle-ci qui dure peut-être un petit peu plus longtemps, trois minutes et demie, je crois, est d'un Québécois qui s'appelle Pierre Cartier, qui, lui, joue de la basse et chante, et il a une formation de jazz assez moderne. Et le tout a un son assez curieusement approprié à Sandrard, dans le sens que, moi je dirais que c'est à mi-chemin entre le chant grégorien et Thelonious Monk, si vous pouvez vous imaginer ces deux pôles. Ah. S'il vous plaît.
Yeah. Montmartre d'Ible. Nous sommes loin, Jeanne, tu roules depuis 7 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri, du sacré cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continues, la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent, et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleu. Le train palpite au cœur des horizons plombés, et ton chagrin ricane d'Iblaise. Sommes-nous bien loin de Montmartre d'Iblaise? Les inquiétudes, oublie les inquiétudes. Les gares, les ardées obliques sur la route, les fils téléphoniques auxquels elles pendent, les photos grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un harmonica qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie s'enfuient, et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix. Et les chiens du malheur qui aboient à nous tous, les démons sont déchaînés, ferrailles, tout est un faux accord, le broun roun roun des roues, choc, rebondissement, nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd qui blesse. Sommes-nous bien loin de Montmartre? Mais oui, tu m'énerves, tu le sais bien. Nous sommes bien loin, la folie surchauffée veuve dans la locomotive. La peste, le choléra se lève comme des braises ardentes sur notre route. Nous disparaissons dans la guerre en plein dans un tunnel. La faim, la putain se cramponne aux nuages en des bandades, défiante des batailles en s'appuyant de mort. Fais comme elle, fais ton métier, fais comme elle.
Alors vous comprendrez que peut-être par cette lecture et par le langage que vous voyez dans ce poème, que on le prenait, je crois qu'on prenait Sandra comme menteur parce que le langage ne semble pas être une création littéraire, elle est trop violente. Elle est tellement violente et tellement agressive et souvent très exotique qu'on le prenait comme témoignage plutôt comme création. Et puis ensuite, un deuxième degré, un témoignage inventé. Alors, je vais vous lire une citation d'un ancien copain de Sandar, un écrivain qui s'appelait Serge Sevens, qui le connaissait dès 1914-1915. « Sa grande source d'inspiration et la plus féconde a toujours été la lecture, non seulement des livres purement littéraires qui ne pouvaient rien lui apporter, mais tout ce que l'imprimé peut nous offrir de neuf et de substantiel. » Il a été le plus ardent liseur que j'ai connu, depuis les livres les plus élevés de la philosophie et de la mystique, jusqu'à des prospectus et des dépliants de compagnies maritimes et aériennes. N'ayant au surplus aucun respect pour la chose imprimée, il n'hésitait pas à découper dans les volumes les passages qui l'intéressaient, et il est bien vrai qu'il avait déjà, lorsque je l'ai connu, cette serviette remplie de pages arrachées dont il a parlé dans un de ses bouquins. Doué d'une mémoire extraordinaire, il aurait pu se passer de cette brocante qu'il n'a pas dû consulter souvent et qu'il a d'ailleurs égarée au cours d'un de ses vagabondages. Il m'a donné, d'année en année, 6 versions différentes de son équipée dans le Transsibérien, toutes plus belles les unes que les autres, et différentes de la version du poème. On ne peut vraiment reprocher à un homme d'avoir l'imagination si féconde qu'elle lui permette de créer 7 poèmes avec les éléments d'une seule réalité. Et avec ça, on est en 1913, là, mais enfin, on arrive en 1914, et c'est la fin de l'avant-garde, c'est la guerre. Sandrard est, le nom de Sandrard est le premier sur la liste de l'appel aux étrangers pour servir du côté français, mais dans son cas, comme dans le cas de ses amis, dans la Légion étrangère. Et voici une photo de lui, deuxième volume, en tant que légionnaire. On a retrouvé il y a à peine 4-5 ans une sorte de petite bribe de papier, ceci, cigarette des poilus, une lettre envoyée au Delaunay, que moi je ne peux pas lire et je n'ai vu que cette photo de ce document, je n'ai jamais pu le consulter, donc et on n'a pas encore transcrit le texte, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, sauf pour quelques petits mots là, écrivez plus souvent à la fin quelque chose à votre femme, à toi, Blaise Sandrard, 1er septembre 1915, si vous voyez la signature en bas, c'est-à-dire son anniversaire en 1915, mois de septembre. Et voici une lettre d'un monsieur Robert Delors qui a été adressée à Sandrard beaucoup plus tard dans les années 50. « Cher Blaise Sandrard, et ancien caporal de la 3e du... Je sais pas, non, de la 6e du 3e de marche. Depuis des années, en lisant dans les journaux différents articles parlant de vous, j'ai l'intention de vous envoyer un mot pour me rappeler à votre souvenir et avoir de vos nouvelles. Afin de vous rafraîchir la mémoire, je suis le poilu de votre escouade qui vous avait chargé de passer à Creil voir ma tante, alors que vous partiez en permission en septembre 1915, donc juste après la carte. Entre autres, celle-ci vous avez remis pour moi un saucisson qui, vu les circonstances, a calmé votre appétit et dont vous m'avez consciencieusement rapporté la peau juste avant la bataille de Champagne 1915. Nous nous sommes vus la dernière fois alors que, blessés tous les deux, nous cherchions le poste de secours. Vous, avec votre bras pendant, que vous vouliez que j'achève de couper. Je serais très heureux d'apprendre que vous vous rappelez encore de ces moments et de celui qui se considérait comme votre ami. Et je coupe là. Donc, c'est à ce moment-là, le 27 septembre, donc à peine un mois plus tard, après cette photo, qu'il perd son bras. En Champagne, un endroit qui s'appelle la ferme Navarin, qui est une des batailles, enfin, célèbres. il perd la main droite et donc il devient écrivain gaucher. Il rentre à Paris, là nous sommes en 1916. C'est un dessin qui a été fait par la dame que vous voyez tout à fait à gauche, qui s'appelait Maria Vasilev et qui avait une cantine. D'abord des cantines pour les artistes russes, mais éventuellement une cantine pour tous les gens qui étaient à Paris, tous les étrangers surtout, les hommes qui n'étaient pas à la guerre. Et il y avait très peu à manger, le temps était très difficile en 1916. Paraît-il, c'est une dinde, elle a l'air assez petite. C'est Matisse qui tient la dinde. À côté de lui, alors là, on peut plus le méconnaître, n'est-ce pas? C'est Sandrard, avec le bras manquant en grande évidence. À côté de lui, je ne me souviens plus qui c'est, la dame après, c'est Beatrice Hastings, qui est une actrice anglaise qui était l'amie de Modigliani, mais qui avait quitté Modigliani, et Modigliani n'était pas invité à ce dîner. Ça, c'est le dîner Braque. Il n'avait pas invité parce que la personne en face de Hastings, c'est son nouvelle petite amie. Et c'est Modigliani qui arrive par la porte. Il ne devait pas être là. Et vous avez Braque avec son laurier. Ah, vous voyez assez mal laurier, mais Braque, c'est le deuxième... Non, c'est le troisième à table, là. Tout à fait en haut, avec le béret, c'est Fernand Léger. Alors, Sandars commence à travailler quand même. Il écrit quelques plaquettes, petits livres en prose, très surréalistes. Et le surréalisme n'est pas encore né, n'est-ce pas? Mais il y a un texte qui s'appelle « Profond aujourd'hui » qui est très, très surréaliste. Et ce texte, qui est devenu assez célèbre par la suite, qui s'appelle « J'ai tué », ça, c'est les deux dernières pages illustrées de Léger. Et vous voyez, à la fin, à nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci, je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible, la tête est presque décollée, j'ai tué le Boche, j'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct, j'ai frappé le premier, une phrase qui devient assez célèbre dans les études sandarsiennes, j'ai le sens de la réalité, moi, poète. Et il fait ce double genre, hein, donc, que je vous ai déjà présenté. J'ai tué comme celui qui veut vivre. Et il existe un petit commentaire, en quelque sorte, sur cette histoire. Il y a un texte plus tard de Sandras où il décrit la même chose. Il est au front et il tue un Allemand avec un couteau et il découvre que l'Allemand était déjà mort. Alors, à savoir si ça, c'est la manipulation ou si c'est l'autre texte, n'est-ce pas? Ça, c'est à lui. Il a tous les droits. Je lui donne tous les droits. Alors ça, c'est sa guerre à lui. Il écrit aussi un très, très, très beau poème qui s'appelle « La guerre au Luxembourg », où on a des mutilés au jardin. C'est au jardin du Luxembourg, pas le pays du Luxembourg. Et je vous en lis un petit bout. C'est la guerre des enfants, en quelque sorte, au même moment qu'évidemment les grands font la vraie. Un blessé bat la mesure avec sa béquille, dont le bassin, les flottilles s'entrecroisent. Le méridien de Paris est dans le jet d'eau. On part à l'assaut du garde qui, seul, a un sabre authentique. Et on le tue à force de rire. Sur les palmiers encaissés, le soleil pend, médaille militaire. On relève les morts. Tout le monde va en être, ou tout au moins blessé. Coupe, coupe, coupe le bras, coupe la tête. On donne tout. Croix-Rouge. Les infirmières ont 6 ans. Leur cœur est plein d'émotions. On enlève les yeux aux poupées pour réparer les aveugles. J'y vois, j'y vois! Ceux qui faisaient les Turcs sont maintenant brancardiers et ceux qui faisaient les morts ressuscitent pour assister à la merveilleuse opération. Ce n'est pas tout le poème, c'est un long poème qui devient assez patriotique à la fin, mais avec une assez grande ironie. Alors, Sandars est aussi très copain avec Léger. C'est un dessin de Léger. Il y a un poème élastique, dans les poèmes élastiques, où il décrit Léger en train de peindre. De le peindre, lui. Et le dernier vers du poème, c'est « Voilà, c'est mon portrait ». Donc, ce jeu que je vous ai déjà décrit dans les poèmes élastiques. Et il est très ami aussi avec Modigliani. Ça, c'est un tableau de Sandras par Modigliani. C'est le seul tableau à l'huile, mais il y a une bonne dizaine de reproductions. Ah, pardon, une dizaine de dessins dans celui-ci, qui est vraiment assez beau. Et il y en a un autre que je n'ai pas avec moi, où il y a un petit poème de Sandras. C'est un poème qui est écrit en face d'un dessin de Modigliani et qui fait la couverture du prospectus de la seule one-man show de Modigliani en 1917 à la galerie Bert Weil. Et c'est une exposition assez célèbre. On pourrait appeler ça une exposition vernissage parce qu'il n'y a eu que le vernissage. La police est venue fermer la boutique à cause de ce nu célèbre, un grand nu célèbre que vous voyez souvent dans les livres de Modigliani. Et voici ce petit poème, tout court, sur un portrait de Modigliani. Le monde intérieur, le cœur humain avec ses 17 mouvements dans l'esprit et le va-et-vient de la passion. Alors, ça fait montre, en quelque sorte. L'imagination comme petite montre interne. Alors, vers 1918-19, un monsieur qui s'appelle Paul Lafitte, qui était un banquier à Paris, a voulu faire de l'édition et il a embauché Sandras, qui lui a embauché Cocteau, et tous les deux, ils ont édité un grand nombre de très beaux volumes dans un... dans une maison d'édition qui s'appelle La Sirène. Et ça se trouve d'ailleurs dans la presse. Vous trouverez des Rabelais, vous trouverez les mémoires de Casanova, qui sont très beaux, doivent être très chers en ce moment de trouver. Mais c'est amusant, si vous avez l'occasion, d'aller voir dans les bouquinistes et trouver de vieilles éditions de La Sirène. Il y en a plusieurs de Sandra, n'est-ce pas, qu'il fait pour lui-même. Alors, là, il faut regarder seulement le petit, malheureusement, pour le moment. Le livre s'appelle « Le Panama ou les aventures de mes sept oncles ». Et vous voyez à droite, je n'ai pas pu trouver une reproduction plus grande que ça, c'est très difficile à trouver, de ce poème. Je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur, mais c'est un prospectus de train qui s'ouvrait. Donc là, vous voyez le dos et la couverture devant, et puis vous rouvrez une deuxième fois, et vous avez le poème. Mais à l'origine, comme un prospectus, vous aurez pu le plier et puis le vous mettre dans la poche. Et vous avez à droite ce que j'ai trouvé dans un petit bouquiniste spécialiste de train à Chicago, l'original. C'est-à-dire que c'est tout à fait évident, j'espère que c'est évident, n'est-ce pas, que c'est ce prospectus de train américain du Union Pacific qui a servi comme modèle à Duffy. C'est l'artiste Duffy qui a fait l'autre couverture. Il a changé le Overland, là, il l'a changé en bouée de sauvetage, et le reste est pratiquement pareil. Et là, vous voyez comment le livre se présentait à l'intérieur avec des tracés de chemin de fer. Et encore le style très télégraphié, souvent assez obscur, des 19 poèmes élastiques. Tous les tracés sont en général de Chicago à San Francisco, ils ont très peu à faire au poème. Le poème, c'est pratiquement une excuse pour faire de l'exotisme. C'est les sept oncles et sept frères de sa mère, Dorner, qui sont un peu partout dans le monde, qui ont été à différents endroits dans le monde, et ça lui donne l'excuse de parler, de voyager, d'aller les chercher, de ne pas les aller les chercher. Et un des premiers vers du poème, c'est c'est le crack de Panama qui a fait de moi un poète. Et en quelque sorte, il réunit les faillites de son père avec la poésie. Alors maintenant, je vais passer à un livre très célèbre dans l'histoire du livre, dans l'iconographie du livre. C'est un livre qui s'appelle « La fin du monde filmé par l'ange Notre-Dame ». Ah non, pardon. Ça ne fait rien. J'y arriverai. Ça, c'est encore une page de Panama avec une publicité pour la ville de Denver qu'il a dû prendre dans le prospectus. N'est-ce pas? Dans la poésie, tout marche. Ce n'était pas vraiment le cas 10 ans avant. Alors voilà la couverture qui a été d'ailleurs... La maquette était dessinée de Sandra, mais le dessin, la couverture finie est de Léger. Toutes les illustrations sont de Léger et il y a un très beau jeu de typographie et d'images dans ce poème. Enfin, ce n'est pas un poème, c'est une sorte de scénario de film qui ne sera absolument jamais tourné, qui est impossible à tourner, une sorte de science-fiction avec un voyage à Mars. Voici la première page. Dieu le Père est à son bureau américain. J'ai toujours aimé ce premier vers. Et il est là, il a sa cigare. Là. Il est en bras de chemise et un abat-jour vert sur les yeux. Ça fait un peu film de 1915 d'Hollywood, hein, le grand businessman. Je vous montre un certain nombre de pages. Ce que vous allez voir, ce que j'ai toujours trouvé spectaculaire dans ce livre, c'est que toutes les pages sont différentes. Il ne maintient même pas le même style. Il ne se préoccupe même pas d'être cohérent dans le style. Celui-là, complètement différent. Vous avez morceau du poème, chapitre 5, mélangé, la grande roue. Voilà une autre. C'est à un moment où tous les rois du monde, y compris ceux d'Afrique, sont réunis par le Dieu sur Mars pour donner des comptes. Et c'est fait en petits chapitres très courts, comme ça, comme un scénario, en quelque sorte. Et le dernier que je vous montrerai, à la fin, l'ange Notre-Dame, effectivement, elle souffle dans la trompette, dans son trompette, tout s'effondre, même Dieu lui-même est en fuite, et la terre reprend en végétation, lentement, tout ça, à lui. Une apocalypse heureuse, en quelque sorte. C'est aussi l'époque où Sandrard commence à faire du cinéma. Pendant très longtemps, quand on l'écoutait parler cinéma, on pensait qu'il n'en avait jamais fait, qu'il se vantait. Ben, il se vantait peut-être, mais il en a fait. Il en a fait. Ah, sa première collaboration, c'est ça. C'est un film d'Abel Gance où Sandrard n'a pas fait de cinéma, mais il a fait de la figuration. Et il a recruté les gueules cassées de la guerre, dont il en était lui-même. Et c'est lui qui est... peux pas vous montrer, hein. Il faut que je me lève. Il est là, c'est lui, avec un bandeau qui se défait de son bras. Il avait dit, et j'ai perdu le bras une deuxième fois, en hémoglobine de cheval. Ça, c'était du cinéma, disait-il. Et c'est les morts, la scène, c'est à la fin du film, vous avez une cimetière, vous avez le champ des morts, à la fin de la guerre, et, excusez-moi, j'ai pas dit le nom du film, ça s'appelle J'accuse. Le film s'appelle J'accuse. Et les morts se relèvent, et marche sur la ville dans un j'accuse pour accuser le monde moderne de faire la guerre ou de les prévoir, de les prévenir de ne pas recommencer parce que la ville recommence les mêmes business, les mêmes machinations, etc. Ensuite, il a été l'assistant d'Abel Gance, un film qui s'appelle La Roue. Il est là-bas, près du chemin, à côté du chemin de fer. Voilà le caméraman ici. Et c'est un des premiers films faits à l'extérieur. Et c'est un film aussi qui a été assez célèbre par le montage très spectaculaire, très saccadé des vues de train et qui a eu une certaine influence sur Eisenstein, qui vient après. Hein. Là, on est en 1921 seulement. Et j'y passe. Je vous montre une autre photo de cette époque. Sandard lui-même est allé faire du cinéma, à faire un film à lui, à Rome. On a souvent pensé que ce film n'existait pas, mais plus récemment, on a retrouvé le visa de contrôle. Et le visa de contrôle était donné par la censure, ce qui veut dire que la censure avait vu le film. Donc le film n'a existé. Mais c'est en 1921, et je vous décris les circonstances dans... C'est Sandard qui parle. Je rentrais bredouille, victime du krach du Banco di Sconto, ce scandale financier soigneusement monté par le baron F, qui devait empocher d'un seul coup, à l'aube du régime de Mussolini, tous les capitaux de l'industrie cinématographique italienne si opportunément amassés durant la Grande Guerre et porter à cette industrie un coup dont le cinéma italien ne s'est jamais relevé. Personnellement, je trinquais pour 8000 livres sterling, soit 1 250 francs, 1000 francs, en chiffres ronds, le change étant à 160, mon premier million gagné par mon travail depuis que j'avais dit adieu, non pas à la poésie, mais au poète. Et à Paris, et pour toujours. La 7e année de ma vie d'homme commençait, et j'étais de retour à Paris, et je recommençais à zéro. Alors, je vous montre quelques amis de l'époque. Ça, c'est au Tremblay-sur-Mauldre, un petit village où se retrouvaient Vollard, le marchand de Picasso, Sandrard, et ça, c'est Francis Picabia, qui a fait le portrait de Sandrard pour un de ses volumes. Ils étaient assez proches. C'est une assez longue histoire que je ne peux pas poursuivre. Ça, c'est un faux train. C'est important d'avoir un faux train, n'est-ce pas? Sandrard est tout à fait à gauche. Sa compagne de ce moment-là, à partir de 1917 jusqu'à la fin de sa vie, c'est une actrice qui s'appelle Raymond Duchâteau, qui était actrice dans la troupe de Louis Jouvet. Elle est tout à fait à droite. Vous pouvez la trouver au cinéma. Je pense qu'elle fait une bonne dans l'Hôtel du Nord. Mais on le trouve ici, là, au cinéma. Et l'autre monsieur, c'est Stravinsky. Et donc, la dame entre les deux hommes, c'est Vera, qui ne s'appelle pas encore Vera Stravinsky, ça c'est plus tard, c'est sa maîtresse à ce moment-là. Et ça, c'est une photo qui m'a bien amusé. Je pourrais vous dire des choses sur Le Corbusier, mais je ne vais pas prendre le temps. Ça, c'est le bureau, le cabinet de travail de Le Corbusier, n'est-ce pas? Le client arrive, il s'assoit dans un beau siège très moderne, il commence à feuilleter une magazine qui va le mettre... Dans le besoin d'avoir une maison moderne. Et vous avez ici, j'ai trouvé ça par accident, parmi les livres, le premier, c'est La fin du monde, dont je vous ai montré la photo, n'est-ce pas? Complicité d'artiste. Ensuite, Sandra a fait un ballet pour les ballets suédois. C'est lui qui a écrit le livret. La musique, c'était de Darius Milhaud. Et ce ballet s'appelle « La création du monde ». Et à la fin de mon topo, je vous passerai un petit bout de « La fin du monde ». C'est une très, très belle, très, très, très belle musique. Sandrard est à côté avec un cigarette et le crâne rasé. En haut, vous avez Léger. C'est Léger qui a fait les décors et les costumes. Et le danseur principal, c'est Jean Bourlin, qui est au milieu. Et il y a plein de gens qui pensent que c'est Cocteau sur le côté, mais ce n'est probablement pas Cocteau. Et voici à quoi ça ressemblait sur scène, en 1923. Et Sandler est parti, il aurait dû faire un autre, il avait le projet de faire autre chose avec les ballets suédois. En fait, c'est Picabia qui l'a repris pour faire Entr'acte. Et Sandler est parti à son premier voyage au Brésil. Il y a au moins 4, 5, 6 voyages au Brésil. Ça, c'est son Ford qu'on lui avait prêté et il passait dans la brousse, dans ce truc-là. Et il a rapporté des poèmes, souvent des poèmes conversations de ses voyages. Et je vais vous en passer un et je vous montre le texte écrit de la main, signé de la main gauche. Benoît, il est parti? Ah, il est là. S'il vous plaît, Benoît.
Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapis comme des jaguars, île muette, île inoubliable et sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Alors, je crois que je vais être obligé d'accélérer encore plus que je ne pensais, mais je vais essayer de terminer dans un quart d'heure, par exemple, pour vous donner le temps de poser quelques questions. Je vous montre quelques couvertures. Ça, c'est la dernière couverture de poésie, un volume qui s'appelait Kodak. La compagnie Kodak lui a écrit pour dire qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ce mot sur sa couverture. Et donc, c'est une sorte de plagiat. Il a donc nommé le volume par la suite Documentaire avec un S. C'est un volume tout à fait extraordinaire. Est entièrement plagié. Tout le volume est plagié chez un écrivain copain à lui qui s'appelait Gustave Lerouge. En fait, il le signale dans un de ses volumes, mais on n'a jamais cru et on ne savait pas quel volume de Gustave Lerouge ça devait être, mais Sandler dit « Gustave, tu es un grand poète antipoétique et je vais te le prouver. » Et il dit qu'il découpe, puis il fait publier et puis il lui apporte. Et tout est découpé dans un volume qui s'appelle « Le mystérieux docteur Cornelius ». Presque tout. Peut-être pas les 8, il y a 8 menus à la fin. Je vous en lis un parce qu'il est canadien. Saumon de Winnipeg, jambon de mouton à l'écossaise, pomme royale Canada, vieux vin de France. Et un autre, alors d'origine très différente. Aileron de requin confit dans la saumure, jeune chien mort-né préparé au miel, vin de riz aux violettes, crème au cocon de verre à soie, verre de terre salée et alcool de kawa, confiture d'algues marines. Alors ça, c'est la fin de Sandler, poète, et il devient romancier. Et ça, c'est son premier livre. Et quand vous parlez à des Suisses, ils ont tous lu ça à l'école. Je ne sais pas s'ils sont obligés, mais enfin, ils le font quand même. C'est une très belle aventure où Sandler, en fait, découvre, pour les Américains, l'histoire du général Sutter, qui était absolument inconnu à l'époque aux États-Unis. Par la suite, il y a un grand scandale parce que les Américains disaient qu'il avait changer des choses, ce qui est sûrement vrai. Donc, là, ça, c'est une édition populaire que je trouve, dont je trouve que la couverture est assez belle. C'est passé en feuilleton dans l'Humanité, par exemple, aussi. Et ensuite, deux grands romans que je peux vous recommander, dont je n'ai pas de photo, Moravagine, dont le titre vous en dit déjà peut-être trop, et Dagnac, qui est un livre en deux, qui pour moi est le plus beau de ces trois-là, divisé en deux. Il y a un volume qui s'appelle « Le plan de l'aiguille », qui est un endroit dans les Alpes, et dont il n'est jamais question dans le volume, d'ailleurs. Seulement dans le deuxième volume, qui s'appelle « Les confessions de Dagnac », où Sandler prétend en train d'enregistrer ce poème sur des rouleaux. Et nous arrivons après ces trois premiers romans dans les années 30, et dans les années 30, il a fait énormément de journalisme. Il a eu le droit de faire ça en quelque sorte, peut-être parce qu'on croyait que sa vie, qu'il était vraiment témoin et pas écrivain, d'une part, et d'autre part parce qu'il était bien célèbre et que sa signature, elle est sur des livres. Ça, c'est un reportage qu'il a fait pour un journal, publié en volume, qui s'appelle Panorama de la Pègre, où il a voyagé partout en France. Il a fait ça par région de France et qui montre qu'il devait connaître assez bien la Pègre, mais la Pègre toute différente à chaque endroit. N'est-ce pas, chez les Basques d'une part, chez les Diamantiers dans le Nord, etc. C'est un tableau d'un copain à lui qui s'appelle Cassandre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. c'est l'artiste de l'Étoile du Nord. Hein, ces grandes affiches, vous pouvez les acheter. Ou le Normandie. Il a aussi fait le Normandie, le voyage de Normandie. Mais il l'a fait dans les soutes. C'est-à-dire que Colette l'a fait en première classe. Et lui, il a un reportage dans les soutes. Il a aussi tenté d'être éditeur de volumes à une série qui s'appellerait Les Têtes Brûlées. Ça, c'est le deuxième. Il n'y en a eu que deux. Et il a fait un voyage à Hollywood pour le filmage de son film L'Or. C'est un assez beau dessin de lui sur le bateau, sur un bateau qui s'appelle le Wisconsin. Et ça, c'est l'affiche pour son film. Et j'arrive rapidement donc à la fin des années 30, et c'est encore une guerre. Il fait du journalisme à cette époque-là, d'ailleurs. Il représente un certain nombre de journaux français auprès de l'état-major anglais. Il y a des photos de lui sur des sous-marins anglais en mer. Il a quoi? Il a 63 ans. Et il se réfugie à la fin à Aix-en-Provence, où il s'installe vers 1940, et il n'écrit vraiment rien pendant 3 ans. Ça, c'est une photo du photographe célèbre Doineau, dans sa cuisine, avec sa machine à écrire. C'est pour ça que j'ai apporté le mien, mais le mien, c'est plus tardif. En train de corriger. Et il a écrit au début du premier volume qu'il commence à écrire en 1943, premier volume de ce qu'on appelle la tétralogie autobiographique ou la saga autobiographique. Et alors, j'ai pris feu dans ma solitude, car écrire, c'est se consumer. L'écriture est un incendie qui embrase un grand remue-ménage d'idées et qui fait flamboyer des associations d'images avant de les réduire en braises crépitantes et en cendres retombantes. Vous retrouvez son nom, n'est-ce pas? Car écrire, c'est brûler vif, mais c'est aussi renaître de ses cendres. Et là, je ne peux absolument pas vous décrire ces livres. C'est un très grand problème. Je vous invite à en sortir un de la bibliothèque, puisque vous êtes à la bibliothèque. Il s'appelle le premier « L'homme foudroyé », le deuxième « Bourlingué », le troisième « La main coupée » et le dernier « Le lotissement du ciel ». Et j'aimerais, avant d'arriver à ma dernière page, vous lire deux extraits. Un extrait d'un critique qui tente de décrire comment ça se passe dans ces livres. Et ensuite, Sandra, lui-même, qui décrit ce qu'il pense être en train de faire dans ses livres. Il emploie une technique syncopée, relativiste, qui lui fait découper dans ses souvenirs, au hasard, dirait-on, sans se soucier d'un ordre chronologique ni d'un ordre spatial, désarticuler le temps et l'espace. L'on saute 10 ans sans transition, passe d'un atelier de diamantaire de Rotterdam à un bouge de Valparaiso ou à la cour des chats de Perse. Le récit se brise d'innombrables parenthèses, jamais fermées, pleines d'incidences, de rappels, de piétinements, de retours en arrière, de départ inattendu vers autre chose, où vivent côte à côte durant quelques lignes ou quelques pages des hommes célèbres et des inconnus appartenant à tous les pays et à toutes les époques, des aventuriers vénitiens ou russes, Picasso, que Sandard nomme le Philippe II de la peinture moderne, des Maharajas, le marin Papadakis de Samos, un préposé aux douanes de Bordeaux ressemblant à Joseph Delteille, Chiang Kai-shek ou ce lointain ancêtre du XVIe siècle, Thomas Platten. Cette technique est préméditée par ce discontinu, par tous ses heurts. Sandrard veut étreindre le maximum de vie possible, faire éclater les limites de l'homme. Et maintenant, Sandrard, et ce que je vais vous lire, c'est une seule phrase, parce qu'il y a des phrases démentielles, souvent des phrases de 2 pages dans ses romans. Ça, c'est une petite phrase. « Aujourd'hui, j'ai 60 ans, et cette gymnastique et cette jonglerie auxquelles je m'ai livré pour séduire le mousse, je les exécute maintenant devant ma machine à écrire pour me maintenir en forme et l'esprit allègre depuis les années que je ne sors plus, que je ne bouge plus, que je ne voyage plus, que je ne vois plus personne, glissant ma vie comme une feuille de papier carbone entre 2 feuilles de papier blanc sous le chariot de ma machine à écrire et que je tape au recto et au verso et que je me relis comme un somnambule intercalant dans la vision directe celle réfléchie qui ne peut se chiffrer qu'à l'envers comme dans un miroir, maître de ma vie, dominant le temps, ayant réussi par la désarticuler, la disloquer et à glisser la relativité comme un substratum dans mes phrases pour en faire le ressort même de mon écriture. Et ce que l'on a pris pour désordre, confusion, facilité, manque de composition, laisser aller alors que c'est peut-être la plus grande nouveauté littéraire du XXe siècle que d'avoir su appliquer les procédés d'analyse et les déductions mathématiques d'un Einstein, sur l'essence, la constitution, la propagation de la lumière, la technique du roman. Je fais l'âne pour avoir du son. Et encore, là, une phrase courte, mais dans le sens usuel. En d'autres termes, donc, j'écris ma vie sur ma machine à écrire avec beaucoup d'applications, comme Jean-Sébastien Bach composait son clavecin bien tempéré, fugue et contrepoint. Alors, comme vous voyez, une rencontre avec Doineau. En fait, Doineau était un photographe absolument inconnu, un petit photographe commercial qui avait photographié dans la zone de Paris, autour de Paris, dans le sud de Paris, pour lui-même, et qui était embauché par les éditions de Noël d'aller là, à Aix, et ensuite à Saint-Segond, à Villefranche, prendre des photos de Sandrart pour la publication de L'Homme foudroyé, c'est-à-dire pour faire des photos publicitaires. Et ils se sont mis d'accord tous les deux, ils se sont sympathisés, et par la suite, Sandrart a fait faire, s'est arrangé pour que Doineau puisse publier un volume de photos qui est ça, la banlieue de Paris. Vous voyez que Sandrart, c'est en grand, parce que à cette époque-là, c'était l'écrivain qui était important. Doineau, vous pouvez à peine le lire tout à fait en bas dans le coin. Et voilà deux photos de ce volume pour vous montrer le monde que connaissait Doineau, mais aussi le monde de L'Homme foudroyé. La zone des gitans, qui est en fait la partie la plus importante de L'Homme foudroyé, qui est divisée en quatre rhapsodies, qui s'appelait les rhapsodies gitanes. Et voilà la photo la plus célèbre, c'est la première photo du volume de Doineau. Et par la suite, tous les volumes de Sandrart ont une photo de Doineau dedans. Donc ça, c'est le lotissement du ciel avec une photo par Doineau. Et on vient de publier cette année toutes les photos de Sandrart par Doineau. Il y en a assez pour faire un livre. Moi, je croyais qu'il y en avait une dizaine, mais apparemment, il y en a beaucoup plus. Alors, ce que je vais faire maintenant, pour terminer, c'est que je vais faire passer un interview de Sandrart à la radiodiffusion française, qui a été faite vers 1950, à peu près 3 minutes, où il parle de ce qu'il fait à ce moment-là et un peu son impression de la littérature. Et en même temps, je vais vous donner, pendant que ça passe, je vais vous donner un poème de Sandrart, tapé à la machine. Et ensuite, je vous passerai 1 minute de la fin la création du monde de Millau et vous lire l'épitaphe que Sandrart a écrit pour lui-même. Alors, s'il vous plaît, juste l'interview, n'est-ce pas? Je vais descendre ici, sans me casser la figure.
Écrire n'est pas vivre.
Vous avez écrit, mon cher Blaise Sandrart, dans un de vos plus beaux poèmes, Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence.
Ah oui, vous avez raison, ça me revient, je m'en souviens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers, des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Je crois que tout est inconnu dès qu'on commence à faire quelque chose, et qu'on peut naître pour la première fois ou même pour la millième fois, dans la même maison, dans une maison qui est toujours la même, où l'on découvre chaque fois de nouvelles choses. Un écrivain qui fait de nombreux retours sur soi-même, comme moi, eh bien, que voulez-vous, ne monte jamais le même escalier, ne descend jamais dans la même cave, n'est jamais à l'affût au sommet de la même tour. Il découvre toujours et sans cesse du nouveau. Tout dépend de l'heure, du climat, du moment, de l'humeur, de la fatigue. Parce qu'écrire, c'est une grosse fatigue et c'est bien ennuyeux, souvent.
Vous avez dit, et vous l'avez souvent répété, cette phrase de Schopenhauer, « Le monde est ma représentation », ce qui, n'est-il pas vrai, ne contredit pas, bien au contraire, cette phrase désabusée que nous trouvons aussi dans bon nombre de vos livres, « Écrire, c'est peut-être abdiquer ». Qu'est-ce que vous entendez par là?
D'abdiquer? Qu'écrire, ce n'est pas réellement vivre. Ce n'est pas la vie du corps, en vous excuser en disant que c'est la vue de l'esprit. Ce n'est pas la vue de l'esprit. La vue de l'esprit est la contemplation. Écrire, c'est pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. Et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire. Je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligée d'écrire.
Et ça, c'est encore une chose que vous avez répété souvent. Mais enfin, si on considère le nombre d'ouvrages que vous avez publiés, on s'aperçoit tout de même qu'il y a un nombre considérable de volumes.
Oui, il y en a une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais pas, mais qui sont plutôt les produits de ma paresse que de mon activité. Par jamais, j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet, tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour rattraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du 3e, du 4e, du 5e volume, je crois que j'en ai fait 5, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau.
Oui, mais vous avez tout de même écrit une quantité de livres qui sont tous des histoires vraies. Et les 3 derniers livres que vous avez publiés, Bourlinguer, Le lotissement du ciel...
Le lotissement du ciel, Bourlinguer,
L'homme foudroyé,
La main coupée... Il y en avait 4. Tu dis qu'il y en avait 5, il y en avait 4. Moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit d'autant plus que... On croit réellement que j'ai trouvé une formule et que je vais l'appliquer jusqu'à la fin. Les éditeurs eux-mêmes me demandent de ne pas changer. Mais moi, ça m'ennuie. J'ai besoin de faire autre chose maintenant.
Alors, on peut passer le dernier. Voilà, La création du monde de Millau, de 1923. Je vais le laisser commencer, puis je vous lirai ce petit épitaphe de Sandrard pour lui-même. Si ça ressemble à du Gershwin, c'est pas par accident, mais c'est écrit avant Gershwin. Épigraphe. Là-bas, J, Blaise Sandrard, par latitude 0, 2 ou 3 dixièmes sud, 1, 2, 3 douzaines de degrés longitude ouest, dans le ventre d'un cachalot, dans un grand cuveau d'indigo. Alors, juste pour vous dire la fin, il est mort en 1961. Il n'avait pas encore fini de voyager. On l'a enterré à la cimetière des Batignolles, dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Une amie de Raymond, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour l'enterrer. Et c'est seulement plus récemment, il y a une dizaine d'années, que la fille, Myriam Sandrard, a trouvé un endroit pour l'enterrer, au Tremblay, le petit village où il y avait la photo avec Picabia. Donc, il y a une tombe en bonne et due forme au Tremblay pour Sandrard. Voilà, je vous remercie. Merci d'être venu. Alors, bien sûr, si vous avez des commentaires, il nous reste quand même un petit peu de temps. On a le droit à la salle. On vous demande, par contre, de poser vos questions ou de faire vos commentaires dans... Oui, on va peut-être le passer. Je vais peut-être descendre avec vous. Oui, parce qu'en fait, c'est enregistré. Ils sont en train de l'enregistrer, donc ils... Oui, tu as le droit de partir. Vas-y, parte fort. Non, personne?
Oui. Écoutez, je...
Non, moi je l'entends, il marche.
Oui, je crois qu'il marche. Il marche, oui. On m'entend, ça va. Voilà, j'ai été très intéressé par votre conférence, là, etc. Mais je me pose une question. Sandra était-il surtout menteur ou baroudeur ?
Ou ?
Baroudeur.
Baroudeur. Oui. Mais pourquoi vous mettez une... Pourquoi on ne peut pas voyager ? Pourquoi pas...
Non, un baroudeur, ce n'est pas seulement un voyageur.
Oui, c'est quoi exactement ?
Un baroudeur, c'est un voyageur qui est surtout attiré par les parties du monde les plus problématiques pour l'homme normal.
Non, mais je pense qu'il est. C'est un peu dans le titre bourlingué aussi, hein? Non? Vous ne trouvez pas un peu le sens de ça?
Oui, dans le bourlingué, il y a de ça.
Mais vous avez bien vu les genres de personnes avec qui il avait affaire, à New York, et puis, quand il se sympathise avec Doineau, il n'a pas besoin d'aller en Amérique du Sud non plus. On trouve ça aux portes de Paris. C'est parce que vous voyez ce que c'est la zone de Paris à cette époque-là. On n'avait pas le droit de construire. Le gouvernement interdisait la construction d'immeubles fixes à l'extérieur des fortifications de la ville de Paris pour que cette peuplade, ces gens ne s'installent pas, justement. Et donc, c'était un peuple en roulotte, donc des gitans, mais une peuplade qui partait, qui revenait. Mais il pourrait quand même être menteur.
Non, ce que je voulais dire, c'est un baroudeur, c'est, vous n'avez pas besoin de quitter votre pays pour l'être.
C'est ça.
Vous pouvez choisir, effectivement, quand vous parlez de Paris. J'ai été frappé d'ailleurs par l'image, là, par la photo. Elle m'a même rappelé certains coins d'Afrique, il faut dire les choses. Je suis africain, j'étais surpris, je me suis dit, tiens, c'était vraiment en France ou pas?
Ou derrière Rio.
Donc pourquoi je dis que c'est d'abord un baroudeur? Parce que quelqu'un qui rentre à la Légion, bon, à part, sauf peut-être si à cette époque, à cause de la guerre, comme on l'a fait pour des gens comme. Le pilote Saint-Exupéry, qui est devenu pilote, qui ne serait jamais devenu pilote en temps normal, parce qu'il ne répondait pas aux critères, mais pendant la guerre, on fermait les yeux. L'a-t-on fait pour lui? Où était-il, déjà, à cet âge-là, quand il est pris à la Légion d'honneur? Est-il déjà un personnage qui s'est développé, physiquement, qui a des... qui a des tendances, et je sais pas quoi, c'est ça qui m'a frappé. Parce que, il dit à la fin, c'est pas un écrivain, lui-même l'a dit, et si je me trompe pas, je crois que c'est lui qui disait qu'il se baladait tout le temps avec un dictionnaire, tellement il.
Ouais, mais ça c'est.
Il écrivait mal, etc. Donc.
Ouais, ça c'est 1909 quand même, qui circule avec son dictionnaire en 1909, c'est pas qu'il n'écrit pas par là.
Écoutez,
ce serait à vous de juger s'il écrit en sortant des livres et en lisant les livres. Moi, je peux pas vous raconter ce qui se passe dans les gros bouquins autobiographiques. Mais c'est un écrivain. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre non plus cette interview. Hein. C'est un type qui est en train de vous dire « Moi, j'écris par paresse. » Il vient de vous raconter qu'il écrit 4 livres ou peut-être 5, il ne sait pas. Le fait est, il y en a un autre qui va sortir, qui s'appelle « Emmène-moi au bout du monde ». Le fait aussi, c'est qu'il est en train de faire 3 émissions à la radio, n'est-ce pas ? C'est de la paresse, mais c'est du travail. Il dit, en même temps, il dit c'est de la paresse, et d'un autre moment, il dit après l'occupation, il fallait que je rattrape le temps perdu. Non, il faut faire attention, là. Il est un peu râbleur. C'est peut-être ça qui donne l'impression d'être menteur. Il est râbleur. Il exagère. Je dirais qu'il y a énormément d'hyperbole, mais moi, je.
Écoutez, je ne veux pas vous poser la parole. Dernière question seulement. Lorsqu'il écrit, il publie ses fameux contes africains.
Ouais.
Dans l'ouvrage que les petits Africains...
Oui, j'ai sauté ça aujourd'hui.
Etc. Ouais. Comment les a-t-il? Est-ce parce qu'il fréquente un milieu d'artistes qui souvent ont été un peu
absolument
partout, collectionnent
pas.
Des arts, etc.
Absolument pas. Si j'avais su que vous vouliez la réponse à cette question, j'aurais pas oublié d'intégrer. Il a publié en 1920 un volume qui s'appelle « Anthologie nègre ». Et c'est une anthologie qui a été composée à partir de textes anthropologiques anthropologique, qui étaient les seuls textes qui existaient sur les Africains à cette époque. Et il a écrit un livre de poésie à partir de ça. Donc pour lui, c'était la poésie africaine. C'est des contes africains. Mais c'est la première fois que l'écriture, enfin pas une écriture, mais le langage africain, évidemment traduit en français, malheureusement, mais qui soit présenté non pas comme objet d'examination muséale ou ethnographique, mais poétique. Et il était justement à la source, à Paris, en 1920-21, d'un énorme intérêt à l'écriture africaine, mais en tant qu'art. C'est-à-dire, en quelque sorte, une reproduction dans l'écrit de ce qui s'était déjà passé avec les artistes et l'art africain. Hein, où déjà, 1909, 1910, Picasso avait déjà des statues africaines, et c'est à cause des statues africaines qui étaient chez Apollinaire qui s'est fait arrêter pour vol de la Joconde, etc. Alors, donc, c'est à partir de ça que c'était évident qu'il y ait une idée de faire un ballet noir qui est la création du monde. Mais tout ça, ça s'est fait autour de Sandrard. Lui n'a écrit que ce qu'on appelle le livret, si vous voulez, le scénario qui existe dans une page, on peut le retrouver. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, bien que par la suite, il décrit tout ce qui se passe dans la production. Mais c'est lui qui a réuni le musicien, Millot, qui est allé chercher Borlin, qui a convaincu Borlin de ne pas faire du ballet, ce qu'il appelait la ballet de la russe, qui, pour lui, c'est le ballet à la française. Pour lui, le ballet russe, c'est pas du nouveau. Et ils ont emmené des gens comme Léger et Millot dans les cafés populaires dans les petits quartiers à Paris. Pour voir danser le tango, ce qu'on appelait les Apaches. Il y a d'autres questions, hein? Je ne veux pas trop parler.
Pour savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant des dernières recherches concernant les manuscrits perdus d'Amérique du Sud. Blaise Sandrard parle lui-même qu'il a caché des manuscrits dans des banques en Argentine
au Brésil. Ça, on n'a jamais retrouvé.
On n'a jamais rien retrouvé. C'est ce que je veux savoir. Où s'en est ces recherches? Est-ce qu'il y a des recherches sérieuses là-dessus?
Il y a beaucoup de gens qui travaillent au Brésil et on n'a jamais retrouvé. Ça s'appelle Le Pain quotidien, un roman en 10 volumes.
Oui, mais ils prétendent avoir laissé plusieurs.
Non, pour le moment, ça reste au niveau mensonge, ça. Par contre, il y a eu un volume qu'il prétendait avoir écrit, qui s'appelait La légende de Novgorod, qu'il mettait en tête de tous ses volumes. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un livre, vous avez la liste des œuvres. Que l'artiste veut dire que j'ai publié ça au fil des années. Et toujours en première place, il y avait la légende de Novgorod que tout le monde a toujours pensé n'existait pas. Et c'était publié en russe, sans qu'il le sache, dit-il, par un ami à Saint-Pétersbourg, une fois que lui était rentré, à Saint-Pétersbourg en 1909, je crois. Et il y a une dizaine d'années, quelqu'un en a trouvé un. Mais maintenant, on croit que c'est un faux. Alors, Sandrard ment, et puis il y en a un autre qui ment après. Non, mais il a été retrouvé, il a été en russe, un livre en russe, c'était retrouvé à Sofia. Et on se demande vraiment. Alors, le texte est très bizarre parce que le style de l'écriture est plus avancé que le transsibérien, mais écrit en 1909. Donc, du point de vue interne, dans l'écriture, on se demande. Et puis, avant qu'on ait pu faire des recherches sur l'encre, le papier, tout ça, il a été acheté par un collectionneur, puis il a disparu.
Voilà. Qu'est-ce qu'on lui a reproché concernant son livre « L'or sur l'histoire d'Auguste Sauter » est-ce que le film dont on a vu l'affiche existe?
Ah, le film, je l'ai vu, oui. Mais je ne vous le recommande pas. Hein. C'est d'une nullité exemplaire. Fait par un grand metteur en scène, James Cruise, qui faisait... qui était célèbre pour avoir fait un truc qui s'appelle The Covered Wagon, en fait des films avec plein de figurants et tout ça. Non, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il se trompait sur ce qui se passe, n'est-ce pas? Et moi, j'ai de la documentation. On a la documentation maintenant où Sandrard écrit et il explique pourquoi il a changé certaines choses. Parce qu'en fait, l'or, le sous-titre de l'or, c'est l'histoire merveilleuse du général Sutter. Et en fait, Sandrard avait directement accès aux documents, parce qu'il était à l'école à Bâle avec le petit-fils Sutter. Et il y a un texte d'un monsieur Berman qui était un ami du vrai Sutter, et il y a un texte qui existe, et ce texte, on le retrouve même dans l'or. Il a été plagié, Sandrard l'a plagié un petit peu, pas partout. Mais Sandrard a dit, moi j'écris autre chose. Alors il a changé le nom des enfants, il a changé le nom de la femme, il fait mourir la femme à un certain moment, d'un niveau dramatique. Mais les Américains ne connaissaient même pas ce personnage. Ils connaissaient M. Marshall, qui est le type qui a découvert l'or sur les terrains de Sutter. Et Sutter avait une sorte de plantation sudiste là, énorme, sur des kilomètres et des kilomètres, qui s'est tout effondré à cause de la découverte de l'or. Mais ils n'étaient pas contents. C'est des érudits qui ont publié, des profs comme moi, qui ont dit « Ah, c'est pas ça !» Mais il ne prétendait pas que ce soit ça, de toute manière. Il a écrit un livre dramatique qui... Ouais.
Alors, il y a tellement bourlingué, et puis j'ai vu à quelque part qu'il parlait italien, allemand, russe. Est-ce qu'il a écrit vraiment dans d'autres langues, ou même dans sa correspondance avec des amis, tout ça? Est-ce qu'il écrit en anglais ou en russe, là, l'histoire de Novgorod? Moi, je pense que c'est vraisemblable, mais...
Ah, je ne dis pas que ce n'est pas vraisemblable. Moi, j'y crois toujours à oui. l'existence du volume... comment ça s'appelle? La légende de Novgorod. La légende. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi pas? Big deal, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il ait écrit un volume qu'on n'a pas trouvé?
Mais dans les documents qu'on a de lui, il n'y a rien dans une autre langue. Les écrits sont juste en français, c'est ça?
En général, lui, il a beaucoup écrit en français. Il y a deux ou trois petites affaires assez drôles. Moi, j'ai trouvé une lettre en anglais qu'il écrivait à un éditeur américain.
Ou peut-être en allemand.
C'est pas... En allemand, quand il avait 16 ans, il était à Saint-Pétersbourg. Il voulait faire un travail secrétaire allemano-franco, n'est-ce pas? Il est suisse, hein? Français, allemand, déjà, c'est à l'école, c'est logique. Et puis, il y a une petite histoire qui est assez drôle. Il y a eu une édition complète dans le Club français du livre, publiée par le Club français du livre, une 16-17 volumes, mais dont l'édition n'était pas très bien contrôlée, pas très bien soignée. Et à un certain moment, ils ont un volume entier d'inédit, qui est très intéressant, qu'ils ont retrouvé à Berne. Et dans ces inédits, il y a un texte en allemand de Sandrart, que eux, donc, ils traduisent sur l'art moderne de l'époque, de 1911-12, et que les éditeurs, donc, retraduisent en français, pour le lecteur. Pardon? Non, mais c'est plus drôle que ça. C'est plus drôle que ça. Ce que les éditeurs n'ont pas vu, c'était la traduction allemande d'un texte d'Apollinaire. Donc, Sandrart travaillait pour Apollinaire pour lui donner une version allemande à publier en Allemagne. Et puis, les éditeurs ont remis ça en français, disant « Nouveau texte inconnu de Sandrart ». Puis d'autres, plus tard, ont dit « Couillon, va, tu ne reconnais pas ton Apollinaire ». Voilà. Oui.
Oui, justement, vous parlez d'Apollinaire.
Ouais, ça marche.
Justement, vous parlez d'Apollinaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas souligner l'importance plus grande que Blaise Sandrart a par rapport à Apollinaire? Apollinaire publie Zone, qui est son premier poème novateur. Or, le thème de Zone, c'est l'errance, comme dans Pâques à New York, et la forme, c'est la prose du transsibérien. Est-ce qu'on pourrait presque oser dire qu'Apollinaire est comme une sorte de plagiaire de Sandrart?
Moi, je crois qu'il y a des plagiats entre ces deux exprès, comme copains. Même comme entre le poème et les tableaux de Chagall. Mais ce que vous avez raison, et ça, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, ça fait une grosse dispute, c'est-à-dire que les Pâques, Sandrart revient avec les Pâques qu'il aurait écrit à New York, et des gens qui croient qu'ils ne l'ont pas écrit à New York, qu'il a écrit à Paris, un peu plus tard. Mais on a une lettre de Sandrart à Apollinaire disant « Je vous ai envoyé Pâques » et tout ça. Et c'est au mois de novembre 12, donc avant que Apollinaire commence à écrire Zone, qu'il a commencé dans le Jura, d'une visite avec Picabia dans le Jura. Apparemment, il aurait lu quelques extraits de Zone. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Les poèmes se ressemblent d'une manière assez significative. Il y a le premier cours en Sorbonne sur Apollinaire, c'était par une dame qui s'appelait Durie, Jeanne-Marie Durie, je crois, Durie. Et elle passe tout ça en revue parce que c'est un cours année longue en Sorbonne. Et puis, elle a dit, il n'y a pas de doute qu'il y a une énorme ressemblance. Et ensuite, elle se pose des questions à savoir lequel est devenu le premier. Mais de toute manière, il y a des vers dans Zone qui se retrouvent dans le Transsibérien. Il y a des vers du Transsibérien qui se retrouvent dans Zone. Ils étaient assez copains. Ils devaient d'ailleurs faire un journal ensemble qu'ils allaient appeler Zone. Et il y a un poème au sujet d'Apollinaire qui a l'air un petit peu amer. Et il y a un manuscrit au sujet d'Apollinaire qui est encore plus amer, écrit au dos d'un, d'un autre poème et une lettre qui n'a jamais été envoyée. Mais il y a eu un rapprochement, ils étaient très proches pendant un moment. Ensuite, il y a eu des gens qui ont parlé de l'influence de Sandra. Sandra n'a jamais voulu en dire un mot. Hein, ça, de toute manière, ça aurait été malveillant d'en parler, je crois. Je crois qu'il a fait ça parce qu'il ne voulait pas être malveillant. Puis évidemment, Apollinaire était mort. Il est mort en 18. Et tout ce que vous dites est vrai. Mais je crois que les gens, les érudits, sont un peu d'accord que les grands changements poétiques de l'époque seraient plutôt ceux de Sandrart que celui d'Apollinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'Apollinaire était très bien placé. Et il s'est placé dans un contexte littéraire. Il était éditeur, il a écrit sur les poètes, il a écrit sur les peintres. Il a publié dans le Mercure de France. Et Sandrart était toujours parti. Et ça, c'est l'histoire de toute sa vie, finalement. C'est l'histoire de sa situation littéraire, qu'il n'y a pas travaillé, ou pas assez. C'est triste à dire, et c'est peut-être un peu aussi ce qu'on entend dans l'interview. Hein. Ah, les poètes, c'est des gagne-pains. Vous avez assez? Vous avez faim? Je vous remercie énormément. Au revoir.